peinture et la sculpture permettent depuis longtemps aux images de traverser les siècles. Mais il y a à peine 100 ans que la science a découvert l'art de préserver, pour les générations futures, cette chose si intangible et pourtant si vivante qu'est la voix humaine. C'est un peu de l'histoire récente de Montréal, de 1930 environ jusqu'à 1990, que font revivre ces archives sonores. À travers ces voix, on retrouve la sensibilité d'une époque révolue qui, comme toutes les tranches du passé, a contribué à faire des générations actuelles ce qu'elles sont aujourd'hui. Les extraits d'archives proviennent d'émissions de radio et de télévision, ainsi que de disques. Très peu des enregistrements les plus anciens subsistent encore. Voilà pourquoi ce document débute en 1930, lorsque Montréal compte presque 300 ans d'existence. Dès la naissance du cinéma parlant, en 1927, certaines des nombreuses salles de cinéma de Montréal mettent déjà à l'affiche des films sonores. C'est que la métropole du Canada est une ville résolument tournée vers l'avenir. On y trouve déjà deux stations de radio, CKAC et CFCF, et en plus, le Canadien National diffuse des émissions d'information et des concerts. Un service postal aérien relie Montréal à New York, Toronto, Ottawa et Rimouski. Au centre-ville, les édifices poussent en hauteur et Montréal se flatte de posséder le plus élevé de tout l'Empire britannique, le Sun Life Building. Il convient à ce propos de signaler que, même si Montréal se prétend la deuxième ville française du monde, son visage extérieur est très souvent anglais, en raison notamment de l'affichage et des raisons sociales où l'anglais tend à dominer. Déjà cependant, une réaction commence à se dessiner à cette époque. Montréal compte, en 1931, selon la terminologie de l'époque, 64% de Canadiens français, 22% de Britanniques et 14% d'étrangers. Avec ses 990 000 habitants, l'île de Montréal abrite le tiers de la population du Québec et 67% des quelques 100 000 automobiles de la province. On y trouve deux universités, une de langue française, l'Université de Montréal, l'autre de langue anglaise, McGill, et 6 collèges classiques francophones. Le taux de scolarisation progresse rapidement, facilitant ainsi le relèvement du niveau général d'instruction. Métropole du Canada, Montréal en est aussi le cœur industriel et financier. Aussi, la majeure partie de sa population est-elle formée de petits employés, d'ouvriers et de manœuvres. La métropole possède le port le plus important du pays, dont elle est aussi le principal centre ferroviaire et manufacturier. Les usines Angus se spécialisent dans la construction de grosses locomotives à vapeur, le modèle 5900, et les raffineries de pétrole se multiplient dans la partie est de l'île. Avec l'accroissement du nombre d'automobiles, le pont Victoria, qui sert aussi au train, ne suffit plus à assurer les liaisons entre le centre-ville et la rive sud. On inaugure donc, le 24 mai 1930, le pont du Havre, que les Montréalais surnommeront rapidement le pont Croche, pour marquer, en 1934, le quatrième centenaire de la découverte du Canada, on le rebaptisera Jacques Cartier. Ce pont connaît son premier embouteillage le 1er août 1930, lors de la venue du dirigeable britannique R100 à l'aéroport de Saint-Hubert. Ce voyage expérimental veut démontrer la possibilité d'établir une liaison aérienne entre la Grande-Bretagne et le Canada. Avec ses 1600 pieds de longueur, son diamètre de 132 pieds et un déplacement de 156 tonnes, le R100 frappe les imaginations. Un demi-million de personnes visitent le melon britannique en respectant la consigne de ne pas fumer sur le terrain. Des trains spéciaux transportent les gens de Montréal à Saint-Hubert mais nombreux sont ceux qui veulent profiter de l'occasion pour traverser le pont du Havre avec leur automobile. L'embouteillage engendre des retards de plusieurs heures. Embouteillage prévu, car les journaux ont conseillé aux automobilistes de faire ample provision d'essence.
Viens-tu avec moi, son père, au Valais à Saint-Hubert, va donc hâte l'étage humain, puis au vol voir l'air sans mère. Regarde-moi donc, t'y noir, t'as mis ta chemise à l'envers, il y a un trou dedans qui est aussi grand que l'air sans. M'a changé de nom, t'y Jean.
La Bolduc, Marie-Rose Anne Traverse, de son nom véritable, est née en Gaspésie en 1894 et a épousé un violoneux, Édouard Bolduc. Elle vit à Montréal et effectue des tournées de spectacles au Québec, dans le reste du Canada et même en Nouvelle-Angleterre. Son turlutage la rend célèbre. Elle chante la terre, la misère, les petites gens et aussi la ville, Montréal. La crise qui sévit de 1929 à 1936 lui inspirera quelques chansons qui auront d'autant plus de succès qu'elles correspondaient à la mentalité et aux inquiétudes de notre milieu à cette époque. Le 24 octobre 1929, le fameux « Jeudi noir » où la bourse de New York s'effondre marque le début officiel de la grande crise économique qui allait progressivement frapper toute l'Amérique, puis l'Europe entière, et finalement, la plus grande partie du monde. Assez rapidement, la bourse de Montréal est touchée. Mais les méfaits de cette crise sont plutôt lents à se faire sentir dans la population. Le budget hebdomadaire d'une famille de 5 personnes, qui est de 21,61 $ en 1929, n'a été réduit que de 32 cents en un an. Toutefois, le taux de chômage, qui était de 7,8 % au moment du crash, atteint 28,4 % en janvier 1932. Presque le tiers des travailleurs se retrouve sans emploi et une profonde misère frappe une partie de la population. Les gouvernements fédéral et québécois, ainsi que les grandes municipalités, organisent un système d'allocation appelé le secours direct et multiplient les travaux publics dans le but de créer de l'emploi. La métropole exerce un attrait irrésistible sur les chômeurs des petites villes et des campagnes. Les sociétés Saint-Vincent-de-Paul s'efforcent de secourir les plus miséreux, mais les refuges ne suffisent pas à accueillir tous ceux qui demandent de l'aide. Le climat social se détériore, une vive tension se manifeste, de nouveaux courants de pensée à tendance socialiste s'expriment, mais on n'a pas à déplorer d'incidents graves. Le maire de Montréal, Camillien Wood, tente d'améliorer le sort de la population et se fait un devoir de surveiller les grands travaux destinés à combattre le chômage. Aménagement de l'île Sainte-Hélène, construction du chalet de la montagne, de viaducs et de toilettes publiques que les Montréalais baptisent Camillienne. Même s'il fut d'abord député de Sainte-Marie à l'Assemblée législative du Québec, puis chef du Parti conservateur, Camillien Wood est surtout connu comme maire de Montréal. Figure éminemment pittoresque et colorée, il est élu maire de Montréal en 1928 et le reste jusqu'en 1932, alors qu'il est battu par Fernand Rinfret. Réélu en 1934, de nouveau défait en 1936, le voici encore maire de la métropole en 1938. Un de ses successeurs, Jean Drapeau, lui rendra plus tard hommage en ces termes.
Modifier la conception qu'il se faisait de l'administration municipale et transformer celle-ci en un vaste département de bien-être social. Il a quand même manifesté son désir de réalisation, puisqu'il a quand même entrepris la construction de marchés publics, de nombreux tunnels, de bâtiments qui aujourd'hui font sourire ou rire, mais dans le temps c'était une innovation, les Vespasiennes. Et il aurait souhaité, c'est évident par ces réalisations-là, qu'il aurait souhaité entreprendre beaucoup d'autres choses, et je n'aurais pas été le moindrement surpris qu'il ait rêvé de construire un métro dans Montréal.
Une des solutions préconisées pour contrer les effets de la grande crise est le retour à la Terre. Les tentatives de colonisation se portent vers le lac Saint-Jean, le Témiscouata et surtout l'Abitibi. Des citadins se retrouvent sur des lots non défrichés, sans trop savoir quelle partie en tirer. Et pourtant, on continue d'exercer des pressions sur les chômeurs afin qu'ils prennent la route des champs. Un des promoteurs de la colonisation affirme « Chaque famille de sans-travail qui quitte votre cité soulage votre budget. » En 1932, le thème du défilé de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal est la glorification du sol. La Bolduc y va d'une chanson destinée à convaincre les campagnards de ne pas émigrer en ville.
C'est aux braves habitants que je m'adresse maintenant. Quitte jamais vos campagnes pour venir rester à Montréal. Dans des grandes villes comme ça, de la misère, il y en a. Et surtout cet hiver, il y en a qui mangent du pain noir.
La crise contribue à révéler quelques faiblesses de notre société, en particulier en matière d'instruction, bien que le taux et la durée de la fréquentation scolaire croissent régulièrement. À Montréal, les francophones disposent depuis 1876 de cours universitaires, puis d'écoles dans plusieurs disciplines comme le droit et la médecine, mais encore sous la tutelle de l'Université Laval de Québec. Pendant plusieurs décennies, les Montréalais luttent pour obtenir leur institution autonome et l'Université de Montréal est enfin créée en 1920. 10 ans plus tard, on entreprend l'aménagement sur le flanc du Mont-Royal d'un campus destiné à remplacer les édifices si à l'angle de la rue Sainte-Catherine et de la rue Saint-Denis dans ce que l'on appelle alors le quartier latin. Mais la crise entraîne la suspension des travaux pendant plusieurs années. Ce n'est qu'en 1943 que l'université peut enfin s'installer dans son nouvel et splendide immeuble sur la montagne. Une grande campagne de souscription est lancée quelques années plus tard pour assurer le développement de l'université et l'archevêque de Montréal, chancelier de l'institution, en souligne l'importance.
Le développement de la métropole a rendu cette campagne nécessaire afin que l'Université de Montréal puisse aller de l'avant dans cette marche incessante vers le progrès.
Joseph Charbonneau sera archevêque de Montréal de 1940 à 1950. L'année précédant sa démission, il attirera l'attention du public par ses interventions en faveur des grévistes de l'amiante d'asbestos. Un professeur de l'Université de Montréal crée en 1922 un institut de botanique. Il s'agit de Conrad Kerouac, mieux connu sous le nom de Frère Marie Victorin, qui ne cesse de promouvoir l'étude de la flore laurentienne. En plus d'ouvrages scientifiques, il produit des textes d'un grand lyrisme. La vue d'un arbre le rend poète.
Fatigué des vains bruits que font les hommes, je me tourne vers l'arbre. Je me pénètre de l'essence de sa forme et je suis sensible à la vie qu'il projette sur moi. Je le vois vivre et agir, lui que l'on dit immobile. Je lui parle, lui que l'on dit sourd, et j'entends sa réponse, lui que l'on dit muet.
L'Institut, fondé par Marie Victorin, devait tout naturellement se compléter d'un jardin botanique. Les travaux de construction, qui débutent au Parc Maisonneuve en 1931, traînent en longueur. En période de crise, un tel jardin apparaît comme un luxe aux yeux de plusieurs, même de professeurs de l'Université de Montréal, où l'on songe à fermer des facultés jugées d'importance secondaire. La ténacité de Marie Victorin et de son équipe de chercheurs vient à bout de tous les obstacles et, quelques années plus tard, les Montréalais peuvent visiter leur jardin. L'écologiste Pierre Dansereau, qui y a travaillé de 1939 à 1950, rappelle les débuts de cette institution.
Le jardin botanique a été créé dans un temps de crise, c'est-à-dire immédiatement pendant et après la crise économique, avec des moyens assez divers et plus ou moins éphémères. Il a été possible de penser grand. Il avait fait un projet de jardin botanique qui supposait des développements pour bien des années à venir. Mais dès le début, il a été possible pour lui de réaliser certains modèles qui, aujourd'hui encore, continuent de s'imposer à l'attention mondiale.
Scientifique de tout premier ordre, Pierre Dansereau acquiert un rayonnement international par ses conférences et ses publications, et il est appelé à enseigner dans de nombreuses universités américaines et européennes. Avec Marie-Victorin, Esdras Mainville et Édouard Monpty, Dansereau se situe dans la lignée des éducateurs éminents et de ces humanistes qui ont contribué à une prise de conscience, par notre société, de ses grandeurs et de ses misères, mais aussi de ses possibilités. D'autre part, les années 30 sont marquées au Québec, et en particulier à Montréal, par un profond renouveau du nationalisme canadien-français, surtout dans la jeunesse, dont l'un des maîtres à penser est l'historien Lionel Groulx. Le nationalisme économique, favorisé d'ailleurs par la Grande Crise, prend aussi une importance nouvelle. Esdras Mainville, qualifié par Groulx de chef de file de sa génération, a été directeur de l'École des hautes études commerciales de Montréal de 1938 à 1959. Il était profondément convaincu de la haute mission de cette institution qu'il définissait ainsi.
Qu'était-ce donc que l'École des hautes études commerciales lorsque mes camarades et moi-même nous y inscrivions au lendemain de la Première Grande Guerre, c'est-à-dire au moment où, au point de vue recrutement du moins, elle commençait à prendre son essor? Dans ses objectifs immédiats, c'était une école professionnelle destinée à former des auxiliaires du commerce et des spécialistes des principales fonctions des affaires. Mais considérée dans ses fins les plus larges, c'était une école d'économie appliquée destinée à former des industriels, des commerçants, des financiers, c'est-à-dire les restaurateurs et les bâtisseurs de l'économie canadienne-française. Pour devenir une authentique institution canadienne, il fallait donc que l'École des hautes études repensât l'expérience pédagogique européenne dont elle s'inspirait en fonction de la pratique professionnelle américaine et qu'elle repensât celle-ci en fonction de la tradition culturelle du Canada français. Le talent des affaires ne manque pas chez nous. Ce sont les occasions et les moyens de se manifester qui ont fait défaut. Corrigeons cela et le reste viendra de soi.
Mais les bâtisseurs ne se manifestent pas que dans les domaines de l'économie, du commerce et de la finance. Ils sont au moins aussi actifs dans le domaine religieux. La foi catholique des francophones de Montréal en a fait la ville aux 100 clochers. Vers la fin des années 30, on y trouve en effet 110 paroisses, sans compter de nombreux lieux de pèlerinage, dont le plus célèbre est l'oratoire Saint-Joseph, construit sur le Mont-Royal. Dès les premiers temps de notre histoire, d'ailleurs, la montagne a été le siège d'un premier pèlerinage lorsque, le 6 janvier 1643, Maisonneuve, suivie de la population de la petite colonie, y plantait une croix pour remercier le ciel d'avoir sauvé la ville naissante de l'inondation. Et si la dévotion à Saint-Joseph remonte au début de Ville-Marie, c'est le frère André qui va vraiment la populariser. Né Alfred Besset à Saint-Grégoire-d'Iberville en 1845, le frère André est d'abord portier au Collège Notre-Dame. En 1909, ses supérieurs le nomment gardien du petit oratoire en bois érigé sur la montagne. 3 ans plus tard, c'est la fondation des Annales de Saint-Joseph et les pèlerins commencent à fréquenter par milliers ce coin de montagne où l'on dit que des miracles se produisent. La mort du frère André, en janvier 1937, plonge les Québécois dans un véritable deuil national. lors des célébrations soulignant le 50e anniversaire de l'oratoire, le cardinal Paul-Émile Léger tracera ce portrait du frère André.
La plupart d'entre nous ont connu le temps encore proche où ce sommet sauvage n'était qu'un point excentrique de la cité et où seuls quelques excentriques qui avaient une dévotion envers Saint-Joseph osaient s'aventurer. On y venait, comme on va à la campagne, pour y goûter la paix de la forêt et pour y trouver le bon frère André. Qui aurait prétendu qu'en quelques décades, à peine 50 ans après ce premier geste posé par l'humble frère de Sainte-Croix, une immense basilique régnerait en ces lieux, édifiée non par des capitaux fantastiques ou par le jeu de la bourse, mais par la foi de tout un petit peuple. Quand on pense qu'une telle œuvre a été réalisée en 50 ans par un homme dépourvu de toutes les ressources humaines, tant du point de vue de l'intelligence, du talent et de la fortune, on comprend que c'est Dieu qui a tout fait en ces lieux.
Des multiples témoignages rendus à la vertu et à la simplicité du frère André. Nous retenons celui-ci du père Émile de Guire, qui fut directeur des annales de Saint-Joseph de 1923 à 1932.
Je pourrais dire que le frère André accomplissait des merveilles sans s'en douter. Je lui disais par exemple, pourquoi dites-vous à des gens, laissez vos béquilles et marchez. Alors qu'avec d'autres, vous leur dites, allez à la chapelle, faites une neuvaine de mortification, de prière, puis très souvent, ils étaient guéris. Alors, il me regarde, mais il dit, c'est parce que dans certains cas, ça me paraît évident. Alors, c'est une évidence qui lui venait d'en haut, mais pour lui, c'était très simple. Tout était simple avec le frère André.
Le peuple, qui se presse fréquemment à la basilique de la Montagne, est pour une bonne part le même qui, chaque soir, suit religieusement l'émission de radio sans doute la plus populaire de l'époque.
Et voici que le rideau s'ouvre sur une autre des belles histoires des pays d'en haut, un homme et son péché.
La première émission est diffusée à la mi-août 1939. Il s'agit de l'adaptation radiophonique du roman de Claude-Henri Grignon, publié sous le même titre 6 ans auparavant. L'ouvrage raconte l'histoire d'un cultivateur des Laurentides, Séraphin Poudrier, dominé par l'avarice. 11 ans plus tard, la première du film, tirée du roman de Grignon, fera l'objet d'un reportage à la radio.
Bonsoir, chers auditeurs. Le tout Montréal s'est donné rendez-vous au Théâtre Saint-Denis ce soir. C'est, comme vous le savez, la première mondiale du second film à long métrage de la Quebec Production, Un homme et son péché. Montréal traverse présentement l'une des périodes les plus fécondes en manifestations artistiques de grande classe. Cinéma, théâtre, radio, tout contribue à lui donner un aspect de véritable foyer d'art. Ce soir, c'est la première mondiale d'un film créé, monté et interprété par des Canadiens français. Demain soir, ce sera la célébration de la 100e représentation d'une pièce de théâtre, également taillée dans le vif de l'âme canadienne-française. Et de son côté, la radio se complète à retrouver sur l'écran, où sous les feux de la rampe, une pléiade d'artistes qu'elle s'est appliquée depuis plusieurs années à former ou à faire mieux connaître.
La renommée de l'émission « Un homme et son péché » est telle que le nom de Séraphin devient synonyme d'avaricieux. Ce succès est certes dû au talent de l'auteur et à celui des comédiens, mais aussi au fait que cette description de la vie rurale n'est pas sans évoquer des souvenirs pour les nombreux Montréalais qui sont encore tout près de leurs origines paysannes. Cette population, à large majorité catholique et francophone, fière de son histoire et de sa langue, fait tout de même partie de l'Empire britannique. D'ailleurs, En 1939, on se charge de rappeler aux Montréalais qu'ils sont toujours sujets de la couronne d'Angleterre. La visite du roi George VI et de la reine Élisabeth, les parents d'Élisabeth II, doit servir à raviver le loyalisme des Canadiens français. Ce qui est d'autant plus important que les rumeurs de guerre s'amplifient en Europe. Le 19 mai, le maire Camillien Houde accueille les souverains qui adressent la parole à la population.
À l'hôtel Windsor, avant et après le grand banquet d'honneur, leurs majestés doivent paraître trois fois au balcon pour répondre aux désirs de la foule qui réclame leur présence. Il y a là près de 100 000 personnes dans le square Dominion et aux abords de l'hôtel.
C'est ici que s'ouvre la porte du Canada. C'est ici que la nation canadienne a pris naissance.
Pour deux grandes races, avec leur législation, leurs croyances et leurs traditions différentes, s'unir de plus en plus étroitement à l'imitation de l'Angleterre et de l'Écosse, par les liens de l'affection, du respect et d'un idéal commun. Tel est mon désir le plus cher.
Cela se passe en mai 1939. Trois mois à peine s'écoulent avant que la Grande-Bretagne et la France ne déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre. Sept jours plus tard, le Canada emboîte le pas et le premier ministre, Mackenzie King, s'adresse à la population sur le mode pathétique qui convient.
My fellow Canadians, to unite in a national effort to save from destruction all that makes life itself worth living and to preserve for future generations those liberties and institutions which others have bequeathed to us.
Une des premières victimes du nouveau conflit mondial est le gouvernement de Maurice Duplessis, au pouvoir à Québec depuis 1936. Pour remporter les élections du 25 octobre 1939, Adélard Godbout, qui dirige le Parti libéral provincial, prend l'engagement solennel de quitter son parti et même de le combattre. Si, dit-il, un seul Canadien français, d'ici la fin des hostilités, est mobilisé contre son gré sous un régime libéral. Les ministres libéraux fédéraux qui appuient sa candidature multiplient les déclarations dans le même sens. Le 10 juin 1940, l'Italie entre en guerre aux côtés de l'Allemagne. Cela amène l'arrestation de centaines de Montréalais d'origine italienne, dont plusieurs se retrouvent dans des camps de détention. L'évolution de la guerre engendre de curieux revirements. Depuis des années, on dénonçait les bolcheviks et l'Union des républiques socialistes soviétiques. Les communistes de Montréal avaient eu maille à partir avec le gouvernement Duplessis et sa loi du cadenas. Mais voilà que l'URSS joint le camp des Alliés. Et à Montréal, on recueille des fonds pour venir en aide à la Sainte-Russie. Une grande manifestation a lieu au Forum et la principale oratrice est Madame Franklin Delano Roosevelt, l'épouse du président des États-Unis, que le premier ministre du Québec, Adélard Godbout, présente en termes chaleureux.
Un devoir bien agréable m'incombe, celui de souhaiter la bienvenue à notre visiteuse distinguée, Madame Roosevelt. Madame Roosevelt, vous nous recommandez l'aide à la Russie? Vos paroles seront entendues. Elles atteindront tous les cœurs et délieront toutes les bourses. Comment leur refuserions-nous notre secours, nous qui n'avons jamais cessé de placer au premier rang de nos obligations celle de la charité chrétienne.
Des milliers de Montréalais se sont engagés volontairement pour combattre sur les champs de bataille européens. Plusieurs subissent leur entraînement dans divers camps construits à cet effet sur la rive sud, et des artistes, entre autres Alice Robbie et le soldat Lebrun, se chargent de distraire les recrues. Cette chanson du soldat Lebrun a figuré longtemps au palmarès.
Viens t'asseoir près de moi, petit ami. Dis-moi sincèrement que tu m'aimes. Et promets-moi que tu seras l'ami de personne que moi. Aujourd'hui, parents et amis, je viens faire un dernier adieu. Je dois quitter mon beau pays pour traverser les grands fleurs bleus.
En temps de guerre, il faut non seulement soutenir le moral des troupes, mais aussi et surtout conditionner l'opinion publique. On fait alors appel à la formule si populaire des radioromans. Ces émissions, financées par les offices de propagande, viennent renforcer les déclarations du cardinal Rodrigue Villeneuve, archevêque du diocèse de Québec. Le cardinal préside, le 9 février 1941, à l'église Notre-Dame de Montréal, une messe votive au cours de laquelle est faite la déclaration suivante. Le Canada français prête serment de ne pas déposer les armes tant que la victoire de l'idéal démocratique sur les puissances de l'Axe ne sera pas assurée. Voilà le thème qu'exploitent les émissions Val Albert et La fiancée du commando.
Ce programme est dédié à la défense de notre Canada. Pour que la joyeuse chanson de nos cloches ne soit pas éteinte par les crachements sinistres des mitrailleuses. Pour que les libres jeux de nos petits-enfants ne soient pas remplacés par le pas militaire dès qu'ils auront 7 ans. Pour que notre vie à tous ne soit plus qu'une longue servitude, où tout serait réglementé, même la façon de rire et de penser. Pour conserver enfin toutes nos libertés.
La fiancée du commando. Nous avons vu que les deux nazis ont méticuleusement dressé leur plan et que le rendez-vous chez le cordonnier Krosik est un véritable guet-apens pour se débarrasser de M. Fickel.
C'est bien regrettable, mais nous ne pouvons faire autrement.
Non.
Pauvre homme. Oui, pauvre homme. Victime des circonstances. Je suis vraiment navré. Venez, Pépère. Nous arriverons juste à temps pour sauter dans le train de Montréal.
Comme si les sermons et la radio ne suffisaient pas à créer une psychose de guerre, on organise aussi des spectacles au Parc La Fontaine. Ainsi, à la mi-juin 1941, lors de la campagne du premier emprunt de la victoire, on bombarde un couvent de religieuses, construit en carton, pour illustrer, comme on le dit alors, ce qui se déroule chaque jour et chaque nuit dans les villes et villages d'Angleterre. Dans une telle atmosphère d'exaltation guerrière, il est malvenu de s'opposer ouvertement à toute mesure destinée à intensifier l'effort militaire. Le maire de Montréal, Camillien Houde, l'apprend à ses dépens. Tous les citoyens canadiens, hommes et femmes, âgés de 16 à 60 ans, doivent se prêter à un recensement entre le 19 et le 21 août 1940 et remplir un questionnaire. Pour un grand nombre de citoyens, il s'agit du premier pas vers la conscription. Le 2 août...
Houde a dénoncé ça. Il a dit, vous préparez la conscription, il n'y a pas de raison de procéder à l'enregistrement si ce n'est pas pour préparer la conscription. Il a conseillé aux gens de ne pas s'inscrire, il a dit moi-même, je ne m'inscrirai pas. Comme il était maire de Montréal et député de Sainte-Marie, extrêmement populaire, ça a eu naturellement un retentissement considérable. Et alors le gouvernement n'a pas hésité, il n'a fait ni une ni deux. Il a fait arrêter Camille Daoud, il l'a envoyé au camp de concentration, où il est resté pendant toute la guerre. D'abord en Ontario, au camp de Petawawa, et ensuite il a été transféré à Fredericton, au Nouveau-Brunswick.
Celui qui vient de parler ainsi de Camille Daoud est l'historien Robert Rumilly, auteur de plusieurs ouvrages, dont une histoire de Montréal en 5 volumes. Quelle ville laisse donc derrière lui le maire Wood lorsque les policiers de la gendarmerie royale l'arrêtent à 11h du soir le lundi 5 août 1940? Selon le recensement de 1941, Montréal compte 903 000 habitants, dont 86% sont nés au Canada, 5,4% en Grande-Bretagne et 8,6% à l'étranger. La population du Grand Montréal, en majorité francophone, dépasse largement le cap du million. L'accroissement de la population citadine est dû à l'exode des ruraux venus travailler dans les industries de guerre. La Vickers et les usines Angus ont modifié leur production pour s'orienter vers la fabrication de matériel militaire, notamment des chars d'assaut. On construit également des avions destinés à l'aviation royale britannique, cependant que le 1er septembre 1941, l'aéroport international de Dorval est inauguré. Le gouvernement provincial nationalise la Montreal Light Heat and Power. Le port bourdonne d'activité, les gares ne désemplissent pas. De nombreux soldats en permission convergent vers Montréal, ce qui est excellent pour le commerce. Mais la moralité publique en est grandement affectée, ce qui incite les autorités à prodiguer des conseils sur les moyens d'éviter les maladies vénériennes. Le chômage a pratiquement disparu et les femmes sont de plus en plus nombreuses sur le marché du travail. On modifie même la loi afin de leur permettre de travailler la nuit. Plusieurs femmes militent dans les syndicats et elles sont nombreuses à réclamer le droit de vote au provincial, comme il a été obtenu au niveau fédéral à la faveur de la Première Guerre mondiale. Le gouvernement Godbout fait adopter en 1940 une loi qui permettent aux femmes de voter aux élections provinciales, malgré l'opposition ou les réserves d'une partie du clergé.
Bien, la plupart des gens du clergé étaient contre, et il y avait des femmes qui étaient contre nous. Et j'ai toujours eu l'impression que celles qui étaient le plus contre nous devaient être probablement poussées par certains membres du clergé. Parce que si vous relisez les journaux de l'époque, vous voyez très bien ce qui se passait. Et je me souviens très bien des objections du cardinal Villeneuve.
Madame Thérèse Casgrain, que l'on vient d'entendre, est une féministe de la première heure. Une femme extrêmement active qui fera de la politique et sera même, pendant quelques années, chef au Québec du Parti social-démocratique, ancêtre du NPD, et qui sera nommée sénateur en 1970. Elle était au premier rang de ces femmes qui, pendant de nombreuses années, firent des démarches à l'Assemblée législative du Québec pour obtenir l'extension du droit de vote aux femmes. Une fois ce droit obtenu, encore fallait-il convaincre les femmes de l'exercer. À l'instar de l'armée, les féministes utiliseront la radio pour véhiculer leur propagande. En prévision de l'élection complémentaire dans Montréal-Saint-Jacques, Juliette Béliveau incite les auditrices de l'émission Fémina à se procurer leur carte d'électrice. Nous sommes le 26 novembre 1941.
Mademoiselle Hélène veut voter aux prochaines élections à Québec. Au moins, j'y vais pas.
Vous voulez pas aller voter? Pourquoi?
Bon, que ça va faire un vote de plus.
Il y a à peu près dans la province autant de femmes que d'hommes, pensez pas?
Sans les compter, je pense que oui.
Bon, si chaque femme dit la même chose, les hommes choisiront seuls les députés? Madame du Devoir, vous n'aimez pas Hitler et les dictatures,
oh,
hein?
Lui, si je le lève entre les mains, je vous dis qu'il perdra sa moustache puis qu'il passera dans le tordeur avant de crier ciseaux.
Bon, ben, ce qui distingue les démocraties des dictatures, c'est précisément ce droit de vote qu'exercent les citoyens. Ce droit qu'ils ont de nommer eux-mêmes leur chef.
Oh, écoutez donc, savez-vous que c'est la première fois que je comprends un peu pourquoi c'est fait qu'on vote?
Ben, c'est trop important. Vous n'avez pas d'excuse de ne pas voter. D'autant plus que c'est la première fois, vous entendez? La
ouais.
Première fois que les femmes voteront dans la province de Québec aux élections prochaines. Vous trouvez pas que ce droit de vote vous donne...
De l'importance?
C'est vrai, ça. Puis je comprends de plus en plus. Je veux voter. Puis j'irai donner mon nom.
Allez-y le plus tôt possible. Après cette semaine, il sera trop tard. Les bureaux fermeront le 29 novembre.
Ah, mon Dieu. Si j'avais su ça plus vite, ben, il y a longtemps que j'aurais ma carte comme mon mari. Puis si je peux l'avoir, je vous dis que je suis pas prête à la perdre.
Quoi?
La carte. Je veux donner mon nom pour voter. Je veux choisir un bon député.
Je voudrais faire de la politique pour vous cabaler.
J'en voudrais des tas de lois et les hommes ne seraient plus rois.
Je vous comprends et sans réplique, je vous obéirai.
Je veux donner mon nom pour voter. Je veux choisir un bon député.
La guerre entraînera une évolution rapide dans plusieurs secteurs de la vie économique et de la vie sociale. L'économie de guerre engendre une nouvelle prospérité. Les Montréalais francophones en bénéficient naturellement comme tout le monde, mais ils doivent constater qu'ils sont bien loin d'avoir encore la maîtrise de leur économie. En 1942, le sociologue et économiste Édouard Montpetit publie le troisième tome de son ouvrage, « La conquête économique », où il démontre qu'il est possible d'utiliser le modèle américain et de demeurer français. Esdras Mainville trace le portrait suivant de Montpetit.
Montpetit a été le premier chez nous à formuler et à répandre l'idée de l'autonomie économique du Canada français. Il l'a présenté comme une condition de survie nationale. La tâche était d'autant plus difficile et méritoire que, nous l'avons déjà rappelé, le milieu était alors indifférent, voire hostile à pareille idée. Comme Montpetit lui-même avait été, dans les universités européennes, formé à la conception libérale de l'économie, et que l'idée d'économie nationale était une dérogation à cette conception de l'ordre économique, et qu'enfin, comme catholique, il devait faire effort pour intégrer à sa pensée les postulats d'une doctrine sociale étrangère à la théorie économique classique. Aucun de ceux qui ont eu la chance de bénéficier de son enseignement n'en a perdu le souvenir. Montpetit enseignait plus encore par ce qu'il était que par ce qu'il disait. Par la culture, le charme personnel, la noblesse des sentiments, l'élégance de la pensée et de la parole, il nous mettait sous les yeux la synthèse des plus hautes et des plus belles ambitions qu'un jeune homme engagé dans des études comme celles que nous poursuivions pouvait concevoir au plus intime de lui-même. Entendre Montpetit, le voir même quand à sa tribune, il réfléchissait en silence, c'était déjà désirer pour soi-même le raffinement de la pensée et des manières, la culture, la réalisation d'une œuvre dont on peut avoir la fierté.
Un des biographes de Montpetit, Roland Bérard, parle de l'éducateur qu'il fut.
Si on avait appliqué les idées de Montpetit, disons, après la Première Grande Guerre, parce que déjà à ce moment-là, Montpetit avait présenté plusieurs conférences, avait écrit plusieurs articles sur la nécessité, justement, de valoriser le potentiel humain des Canadiens français par l'éducation primaire puis l'éducation secondaire très largement diffusée, eh bien, on aurait probablement évité le sacrifice de une ou deux générations de Canadiens français.
On pourrait croire que la période de guerre n'est pas propice au grand mouvement nationaliste. Pourtant, un événement important fournit en 1942 l'occasion de ranimer le nationalisme canadien-français. À de nombreuses reprises, depuis la Première Guerre mondiale, mais particulièrement à l'occasion de la campagne électorale de 1939, les gouvernants fédéraux et leurs alliés provinciaux avaient solennellement promis aux Québécois qu'il n'y aurait jamais de conscription pour service outre-mer. Comme le recrutement de volontaires commence à se tarir, la conscription apparaît au gouvernement fédéral comme l'unique moyen de répondre aux besoins de l'armée. Dès lors, le gouvernement de Mackenzie King veut être relevé de la promesse qu'il a faite aux Québécois, mais afin d'obtenir, d'une façon certaine, une réponse positive, il s'adresse à l'ensemble des citoyens canadiens. La question posée lors du plébiscite national est simple. Consentez-vous à libérer le gouvernement de toute obligation résultant d'engagements antérieurs, restreignant les méthodes de mobilisation pour le service militaire? Au Québec, la campagne se déroule dans un climat passionné et la Ligue pour la défense du Canada multiplie les assemblées afin d'encourager la population à répondre non à la question de Mackenzie King. Le 27 avril 1942, 80% des Canadiens disent oui au gouvernement. mais 71,2% des Québécois se prononcent par la négative. Plusieurs voient dans ces résultats un vote de race.